Alors bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de promouvoir et d'outiller les personnes vulnérables francophones au Canada et partout dans le monde. Je me présente, Edna Lénéus, je suis une femme canadienne, québécoise, d'origine haïtienne et bien plus. Alors, je vous invite à prendre part avec moi à des conversations qui seront riches, inspirantes et certainement instructives. Aujourd'hui, comme tout premier invité, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir Pétuel Descartes et Dany Brisebois avec moi, qui sont les fondateurs d'un orphelinat dans le sud d'Haïti, au CAI, Oasis. Ils sont tous deux pères de famille et des hommes bien dévoués, passionnés par le bien-être des enfants et leur succès. Et j'aimerais vraiment souligner de dire que vous êtes là, surtout pour nous faire part de votre rêve devenu réalité. Et il ne faut pas que j'oublie, vous aimez le succès des enfants. Alors, parlez-nous de Oasis, parlez-nous de son origine, son histoire. Quelles ont été les motivations? Merci.
Bien, c'était pour moi une première rencontre d'abord avec Pétuel il y a quelques années, il y a environ 8 ou 9 ans de ça. Et il m'avait invité à l'époque à venir en Haïti, découvrir un peu d'où il venait et l'œuvre qu'il avait commencée. Bon, je lui avais dit de remettre ça un peu plus tard. Et ma maman était malade à ce moment-là, elle luttait contre un cancer. Puis je lui avais promis qu'une fois terminée cette tâche, j'irais le visiter en Haïti, ce que j'ai fait. Et c'était pas ma première visite. J'avais déjà été en Haïti, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur assez solide quand j'ai pu rencontrer la communauté dans la ville d'Écaille, dans le sud d'Haïti. Et environ quelques mois plus tard, j'ai eu la chance d'y retourner alors que c'était le premier anniversaire de la mort de ma mère. Et là, c'est là que j'ai vraiment eu un appel. Une vision, alors que Pétuel m'a fait rencontrer un jeune homme, un jeune garçon, Jean Frissinel, qui était complètement seul, désemparé, mais malgré toute sa misère, le fait qu'il était jeune, j'ai vraiment senti, vu une lumière à travers de cet enfant-là. Je lui posais la question, quel est ton rêve? Et son rêve qu'il avait d'enfant, c'était de pouvoir avoir un uniforme pour aller à l'école, du matériel pour aller à l'école. Moi, j'étais complètement abasourdi de voir que c'était son rêve. Et quand j'avais son âge, j'avais des plus grands rêves que ça. Mais j'ai vu que très vite que l'éducation en Haïti n'est pas un droit acquis, mais c'est vraiment un privilège. Et je suis rentré, on a parlé évidemment, Pétuel et moi, avec ma femme, et nous avons décidé de commencer quelque chose qui était tout petit au début. C'était une vision. C'était une maison d'accueil pour les enfants abandonnés, des orphelins. Au début, on pensait peut-être la première année d'accueillir 4 enfants, deuxième année, 4 autres, 8. Au bout de 3 ans, notre but, notre vision était d'avoir une douzaine d'enfants. Et à peine 5 ans plus tard, on a plus de 100 enfants. 100 enfants dont on prend soin. Donc, ça nous dépasse. C'était pas un rêve, c'était un appel, puis une vision. Qu'on a répondu, nous sommes croyants et on sent vraiment que Dieu nous a guidés au travers des épreuves, des obstacles et aussi des miracles, littéralement, des opportunités qui se sont transformées en ce qu'on appelle des miracles, des choses qu'on n'aurait jamais pu prévoir ou penser.
Donc, sans enfants sur les lieux, dans l'orphelinat lui-même?
Oui.
OK.
Nous avons terminé de construire l'orphelinat en tant que tel, une belle maison qui peut accueillir jusqu'à 30 orphelins à temps plein. Et nous avons, depuis quelques années, commencé à construire une école pour des enfants très défavorisés. On parle d'enfants qui ont absolument aucune opportunité d'aller à l'école, même si l'école elle est publique, accessible à tous les enfants en Haïti. Malheureusement, leurs parents sont si pauvres, si désœuvrés, qu'ils ne peuvent même pas se procurer l'essentiel. Donc, notre école est dédiée, et Pétuel pourra en parler davantage, pour les enfants les plus démunis. et leurs parents n'ont même pas de maison. Ils vivent sous des petites tentes, des petites, ce qu'on appellerait même pas un cabanon pour nous, une petite cabane avec des tôles, etc. Donc, très, très, très pauvre.
Oui, merci, Dani. Et pour toi, Pétuel, pour vous, pardon. Alors, dites-moi, quelle est votre perspective, votre histoire par rapport à Oasis?
Très bien. Bon, et après une dizaine d'années de religiosité dure, et en 2005, Dieu m'a ouvert les yeux en Jacques chapitre 1, verset 27, où il est dit « La religion pure et sans tâche consiste à prendre soin des orphelins et des veuves, à voler à leur secours. » En voyant cela, je me suis dit « Mais pourquoi depuis 10 ans, j'ai prêché baptême, communion, voilé, tout ça, très dur ?» Pourtant, la religion pure et sans tâche consiste à prendre soin des orphelins, des veuves. Donc, ça m'a appelé. Et puis, bon, c'était une vision, c'était un rêve. Et j'ai travaillé ça personnellement, selon moi, à l'intérieur de moi. Mais j'étais en prière pour trouver des gens qui puissent venir et m'accompagner dans cette aventure-là, prendre soin des orphelins et des veuves. C'était quelque chose qui m'a vraiment touché. Et quand je vois les enfants en Haïti qui n'ont rien, et leur avenir était, jusqu'à maintenant, leur avenir est très sombre. Maintenant, en 2014, j'étais venu ici au Canada, et puis je cherchais partout des églises qui puissent répondre à mon attente pour ma famille, et beaucoup plus d'ouverture, d'horizon. Et puis, j'ai magasiné, j'ai visité, et puis j'ai découvert l'Église du Christ de Montréal. Je me suis dit, oh, il y a une Église du Christ à Montréal, bon, je vais visiter. Et puis, en avril 2014, j'ai visité l'Église avec ma famille, et Dani n'était pas là ce jour-là, mais et une semaine après, il était venu rentrer de voyage, et puis on fait la connaissance, et puis... Et il était enthousiasmé à me visiter chez moi ici à Montréal. Après notre visite, notre fraternité s'est ouverte. Et puis, bon, on s'est échangé. Et puis, il a décidé de visiter et avec moi mon ministère et au CAI. Et après sa visite, bon, il était... Dieu a mis dans son cœur le désir de travailler avec moi. Et dans cette aventure-là, de prendre soin des orphelins et des veuves. Et puis, en août 2016, on a commencé cette œuvre qui s'appelle Oasis. Maintenant, on a une quinzaine d'enfants internes, plus une centaine d'enfants à notre école, et puis beaucoup de femmes, veuves, démunies, délaissées, abandonnées, toutes sortes de choses, là, qu'on a un microcrédit qui marche très bien et il y a deux ans est passé, mais à cause de la crise et à répétition, oui. Multiforme en Haïti, crise politique, tout ça, ça affecte notre, oui. Notre ministère, et c'est pas notre ministère, mais le microcrédit surtout. Mais Dieu, hein, on est là pour présenter notre œuvre et puis inviter les gens à venir nous rencontrer.
Absolument. Merci, Pétuel. Ouais. Donc, j'apprécie beaucoup ton partage, votre partage. Donc, j'aime beaucoup ce qui est écrit sur le site. Et là, je vais lire ce qui est écrit. Je vais le traduire, c'est écrit en anglais. Donc, lorsqu'on voit la lumière dans les yeux d'un seul de ces merveilleux enfants, la réponse devient si simple. Un seul geste d'amour à la fois. Un seul geste d'amour est ce qu'il y a de plus puissant pour répondre à un problème si complexe. Et là-dessus, je vais revenir à toi, Dani. Qu'est-ce qui différencie Oasis des orphelinats suite justement à ce beau passage ou bien cette belle définition de l'amour des enfants, en fait?
Moi, je laisserai Pétuel peut-être répondre à la deuxième partie de la question. Qu'est-ce qui différencie Oasis d'autres orphelinats? Mais moi, je pourrais dire que c'était la première rencontre quand j'ai rencontré ce petit garçon, Jean Frissinel. J'ai eu une révélation aussi en lisant des passages bibliques. Parce que quand on regarde le problème de la pauvreté, on peut se laisser complètement... comment dire en français? envahir puis d'être complètement dépassé parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de besoins. Et la révélation que moi j'ai eue à ce moment quand j'ai rencontré ce petit garçon, ce qui compte, c'est la vie de cet enfant-là. Si on peut aider un enfant à la fois. Et l'idée que je communiquais avec Pétuel, l'idée est de faire, d'aimer, d'apporter tout ce qu'on peut à cet enfant, ce qu'on aimerait apporter à tous les enfants. Et donc, on est commencé avec ce principe. Donc, pour moi, un, deux, quatre, il n'y avait pas de différence. C'était comme si on aidait tous les enfants. Si on m'avait dit à ce moment-là qu'on aurait plus d'une centaine d'enfants déjà, je n'aurais jamais cru. Mais je pense que c'est très important de comprendre ça parce que sinon, on se sent paralysé, on se sent impuissant. On sent qu'on ne peut pas faire de différence, mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Je pense que quand on décide de faire un seul geste, même si c'est simple, ça fait vraiment la différence dans la vie de cet enfant-là, d'une famille. Et c'est en s'unissant les uns les autres qu'on peut vraiment atteindre beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a des centaines de personnes maintenant qui bénéficient. Maintenant, qu'est-ce qui différencie des autres orphelinats? Dès le début, ma vision que j'avais communiquée avec Pétuel, je voulais qu'on fasse une maison qui soit une oasis, un havre de paix, littéralement comme une maison familiale. Que ces enfants-là ne se sentent pas qu'ils sont dans une institution, mais qu'ils font partie d'une maison remplie d'amour, de compassion. Je disais à Pétuel qu'on doit les traiter comme si c'était nos propres enfants et de croire en eux surtout. De voir le potentiel comme si c'était nos propres enfants. Donc pour nous, c'est un enfant n'est pas une opportunité d'avoir un revenu, mais on voit plutôt comme une responsabilité de développer ces enfants-là pour qu'ils deviennent de bons citoyens, je dirais même des dirigeants. Donc ça, depuis le début, c'est vraiment le principe de base en ce qui a trait les enfants. Sinon, pour nous, la gestion du staff, je suis très fier. Une des choses qui était très, très importante pour nous était la transparence, l'intégrité, l'efficacité aussi dans la façon de travailler et d'opérer. Je disais à Pétuel, et il avait la chance d'étudier ici, de vivre un peu au Canada, que j'aimerais qu'on ait les standards élevés comme nous avons ici au Canada. Donc, il n'y a pas de sous qui sont envoyés tant que le rapport mensuel n'est pas fait. Toutes les dépenses sont comptabilisées, scannées, etc. Le staff est, en commençant par Pétuel, très transparent, etc. Et donc, moi, c'est ce que je vois qui est vraiment formidable et qui a été noté par les autorités locales, la mairie ou même les institutions nationales ont déjà remarqué le professionnalisme, l'intégrité du centre.
Ouais. Génial. Merci beaucoup. Pétuel, Dani disait tantôt que justement, tu allais avoir une deuxième partie à cette
histoire. C'est ça, exactement. Laisse-moi te dire, Edna, c'est que en Haïti, je constate que les orphelinats, ce sont des institutions, tout simplement. Tandis que quand on voit orphelinat, on accueille des enfants qui sont orphelins. Et moi, je suis appelé par Dieu pour remplacer leur manque, le manque de la vie de ces enfants-là. Ils ont perdu peut-être leur papa ou ils ont des problèmes familiaux. Donc, moi, mon devoir, c'est de les faire épanouir le plus possible. Donc, c'est pourquoi on a créé cette institution qui s'appelle Oasis, comme une sorte d'abri où on peut trouver de la paix, du calme, de l'amour. Et les enfants qu'on sert là-bas, qu'on dessert là-bas, ils sentent ça, ils voient ça. Parce que dans les orphelinats traditionnels en Haïti, c'est un directeur, un staff et puis des gens, on donne à manger à ces enfants-là n'importe comment. Mais moi et mon staff, on est très méticuleux. Donc la nourriture qu'on sert, moi je dois manger dans cette nourriture-là avec les enfants. Donc ils voient ça. Et la dernière fois, j'étais en train de venir ici, il y a un mois environ, et puis une fille d'entre les sept filles que j'ai là-bas me pose une question. Et papa, quand est-ce que tu vas voyager et quand est-ce que tu vas revenir? Je lui ai dit, je sais quand je vais voyager, mais je ne sais pas quand je vais revenir. Mais j'aime pas quand tu n'es pas là. Donc ça m'a appelé, ça m'a interpellé. Et il voit en moi une sorte de paternité sincère. Et il regarde la télévision dans la même pièce que moi. Ils sont partout où je suis, il n'y a pas de distance. Tandis que je suis membre d'un board d'orphelinat là-bas, et ce n'est pas la même chose. Hein. Il y a une distance entre le directeur et les enfants. Donc moi, je ne veux pas ça. Je veux que les enfants se sentent bien, épanouis. Ils répondent à leurs besoins affectifs au mieux que possible. C'est ça, c'est ça qui fait la différence. Hein.
Absolument. Tu as parlé tantôt de micro-gestion, de pouvoir aider des veuves, micro-crédit, pardon, merci. Donc, comment ça fonctionne, ça? Ça aussi, c'est différent. Parce qu'habituellement, on prend soin des enfants uniquement, pas des parents ou des veuves ou des mères monoparentales.
Après, en octobre 2016, il y avait un ouragan, Mathieu, qui a frappé le sud d'Haïti durement. Et des frères et sœurs aux États-Unis étaient venus voir comment ils peuvent aider. Mais ils ne veulent pas donner un sac de riz à des gens. Donc, ils veulent faire ça de façon que les gens puissent progresser par eux-mêmes, OK? De façon qu'ils puissent autonomes aussi. Et puis, l'organisme, c'est Rich and Support, était venu nous aider avec une première somme d'argent. Et on a reparti cette somme d'argent sous forme de prêt et à au taux très, 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 très faible. C'est 5% sur l'ensemble du montant reçu. Et puis, ils peuvent remettre ça de 6 mois à 1 an ou 1 an et demi. Tout ça, et puis sans pression. Et question de leur permettre de se reprendre après que Mathieu a tout balayé sur son passage, et détruit les plantes, et les animaux, des maisons, des vies. Maintenant, et ces personnes-là, mère biologique des enfants de l'école ou quelques-uns de notre orphelinat, eh bien, ces mères-là profitent de ce microcrédit-là pour se relancer dans des petits business, tout ça. Et ça aide beaucoup. Ça fonctionne parce qu'il y en a qui sont restés dans le business, il y en a qui construisent leur petite maison, qui reconstruisent leur maison, tout ça. Donc, il y a du progrès, même si la crise politique et aussi toutes sortes de problèmes fait que bon, les gens peinent à remettre l'argent de façon régulière, mais on est patient. Donc...
Mais effectivement, j'aimerais juste aller un petit peu plus loin au niveau que tu viens juste de soulever, l'instabilité d'Haïti. Et ça, je sais que, comme Dani des fois soulevait lors de nos discussions en préparation de cette rencontre, j'aimerais savoir quelles sont les opportunités ou les défis. Quand on compare Haïti avec le Canada, souvent, des fois, on a seulement la perspective de... Bien, on peut aller mettre toutes sortes de structures comme nous, on pense ici. Moi, premièrement, tu sais, en étant une enfant de deuxième génération, on a l'intention de vouloir faire toutes sortes de structures, mais on ne sait pas comment ça fonctionne en Haïti. Donc, quelles sont les opportunités, mais aussi quels sont les défis qu'on peut retrouver en Haïti qui ne nous permettent pas de faire aussi facilement qu'on pourrait le faire ici, par exemple, pour l'orphelinat?
Ah, les défis sont énormes. Pour revenir au microcrédit, c'est une réponse qui était très importante pour nous. Effectivement, on ne voulait pas juste aider les enfants, parce que voici le grand problème en Haïti. Beaucoup de femmes sont abandonnées. Et moi, j'ai un cœur sensible pour les situations de mères monoparentales, parce que moi-même, j'ai vécu cette situation-là. Ma mère n'avait pas beaucoup d'éducation. Elle a travaillé comme barmaid et on a vécu sur les pourboires. Mais j'ai vu ce qu'elle a fait, cette femme-là, avec sa vie, comment elle nous a aidés, mon frère et moi. Et pour moi, je ne juge jamais une personne par rapport à son statut, par rapport à son pouvoir économique. Je l'ai appris de ma propre mère. Et je vois que c'est un grand problème en Haïti. Il y a tellement de femmes qui sont abandonnées, ils n'ont pas de mari. Elles ont souvent 2, 3 enfants. Incapacité de pouvoir emprunter de la banque, ça n'existe pas. Et donc, beaucoup de femmes viennent dans la communauté et veulent nous donner leurs enfants pour l'orphelinat. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'école. C'est pour leur dire, premièrement, non, vous allez garder vos enfants parce que la meilleure place, c'est avec leur maman. Nous allons prendre soin de leur éducation, servir 2 repas par jour. Et en parallèle avec ça, on fait un soutien avec ces mamans-là, au niveau social, au niveau psychologique même, parfois, et au niveau économique. Parce que pour moi, la clé, c'est économique. Et donc, c'est pour ça, comme Pétuel expliquait, on offrait et on offre toujours des prêts entre 150 à 500 $ américains, qui est quand même une somme importante pour ces femmes en majorité, pour commencer ou continuer, prendre l'expansion d'un petit business déjà existant ou commencer quelque chose complètement à neuf. Pétuel et son équipe guident aussi des mamans qui arrivent, qui n'ont aucun espoir. Avec un prêt, ils peuvent ensemble voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme marchande de bouteilles d'eau ou marchande de cosmétiques ou de nourriture. Et comme ça, petit à petit, elles apprennent à contracter un prêt, à le remettre à terme. Et au fur et à mesure, la confiance grandit entre nous. On peut même avoir des prêts plus importants par la suite. Donc, ça fonctionne de façon merveilleuse, en point tel maintenant que les participants veulent épargner de l'argent. Donc, le programme de microcrédit a ouvert aussi maintenant une branche de banque, littéralement, où on garde leur argent et qu'ils puissent le garder pour construction de maison éventuellement ou un achat d'une moto ou quelque chose, donc ou l'éducation de leurs enfants.
Incroyable! Je suis vraiment épatée par ce que vous faites. Je vous dis, là, j'ai l'impression que j'ai envie de vous entendre toute la journée. Oui. Alors, j'ai d'autres questions pour vous, pour permettre à notre auditoire, notre public, d'en apprendre davantage. Alors, on a parlé de la différenciation par rapport à Oasis. Maintenant, quelle est la vision à long terme pour les enfants d'Oasis et l'école?
Mais moi, dès le départ, j'ai dit à Pétuel que si on allait aider ses enfants, c'était pas pour l'adoption, pour la déportation dans d'autres pays. Pour moi, ma vision dès le début était d'élever ces enfants-là pour apprendre à apprécier, aimer leur culture, croire en leur pays, malgré tous les obstacles, croire en leurs capacités individuelles et de faire en sorte qu'ils deviennent des futurs dirigeants, des futurs entrepreneurs, des futurs citoyens capables de changer leur pays. Moi, j'aime beaucoup la culture haïtienne, j'aime beaucoup le pays, j'aime beaucoup ces enfants-là. Et c'est triste de voir des avions en entier quotidiennement en voyant des Haïtiens un peu partout dans le monde qui vont vivre des situations vraiment difficiles. Moi, ma vision que j'ai pour ces enfants-là, c'est de croire à l'intégrité et au futur de leur pays et de rebâtir ce pays-là. Pour moi, ça, c'est une grande priorité. Je sais pas.
Oui. Pour faire suite à ce que Danny vient de dire, c'est qu'il y a il y a environ 10 ou 20 ans, il y a une crise d'identité en Haïti. Okay? Et l'exode, ce n'est pas seulement l'exode rural, maintenant c'est national. Ouais? Les Haïtiens ne se croient pas, ne croient pas en eux. Et ils ne croient pas aussi à leurs compatriotes. Et donc, il y a une crise de méfiance. Donc, mon objectif, c'est de relever ce défi-là. Donc, c'est d'abord établir entre la prochaine génération une sorte d'amour de soi et de son prochain. Donc, l'Évangile de Jésus. Donc, c'est mon objectif, c'est notre objectif, c'est de donner à l'être haïtien l'estime de soi. Donc, croire en toi. Donc, c'est difficile maintenant. Maintenant, on travaille là-dessus durement, hein. Mais on va arriver, on va arriver.
Wow! Je vous dis, là, je bois vos mots. J'ai une question indiscrète pour vous. Parce qu'en fouillant sur votre site, puis je me demandais justement est-ce que vous seriez à l'aise à ce que je vous la pose.
Bien sûr.
OK, d'accord. Donc, Haïti est un pays francophone.
Oui.
Quelles sont les raisons pour lesquelles le site est uniquement écrit en anglais?
Que des mauvaises raisons. Non, honnêtement... Comme je suis basé en Ontario en ce moment et la plupart de nos donateurs venaient du Canada anglais ou même des États-Unis, c'était la priorité. On n'a aucun employé, on prend aucun argent. Ma femme et moi, on gère ça de façon tout à fait bénévole. On a des emplois à temps plein, donc on est un peu pris. Mais c'est dans les plans cette année, cet été même, cet automne, la création du site francophone et on veut... toucher les gens ici parce que, comme on le sait, la communauté québécoise en général et haïtienne ici est très, très ouverte et très sensible à ce qui se passe en Haïti. On le voit souvent dans les nouvelles et donc c'est vraiment une priorité pour nous. Et dernièrement, on a eu des personnes aussi qui nous ont approchés ici au Québec qui ont offert là, une aide bénévole aussi. Donc, ça devrait arriver très bientôt et travailler à la production de petites vidéos aussi en français. Donc, pardonnez-nous.
Vous êtes pardonnés. On sait très bien que les donateurs, souvent, sont anglophones. La plupart du temps. Toutefois, on sait qu'on veut changer ça. C'est certain que je crois qu'au Québec, dès que les gens croient dans un organisme, ils donnent. Ils sont généreux. Ils sont prêts à pouvoir investir d'une façon quelconque. Puis justement, j'ai une autre question pour vous plus tard avec ça. Donc, on pourra passer là-dessus un petit peu plus tard. Donc, merci pour cette réponse. Messieurs, si vous aviez un message à transmettre aux Haïtiens, Haïtiennes de la deuxième génération, donc des enfants comme moi, OK, les enfants de la diaspora haïtienne qui ont immigré au Canada et ou aux États-Unis, quelle serait-elle?
Laisse-moi répondre d'abord parce que je suis haïtien.
Oui. Je t'en prie.
Oui. Donc, j'invite les Haïtiens, les Haïtiennes de la deuxième génération à redonner espoir à ceux qui sont là-bas. Parce que là-bas, les Haïtiens ne croient pas en Haïti et même en eux. Donc, ils croient. Peut-être leur avenir dépend de l'extérieur. Maintenant, j'aimerais que les Haïtiens, les Haïtiennes de la deuxième génération, qui sont ici, dans la diaspora, et je ne sais pas, au Canada, et aux États-Unis, ils peuvent redonner espoir à ceux qui sont là-bas et en venant et partager avec eux, en donnant, en faisant du bénévolat. Donc, ça peut aider les autres qui sont restés là-bas, qui n'ont pas la chance de venir au Canada ou aux États-Unis. Parce que moi, je suis venu au Canada, mais je suis retourné en Haïti. J'aime Haïti. J'aime ma ville natale, les Cayes. Je ne peux pas négocier les Cayes. Je sais que Daniel aussi aime les Cayes. Donc, oui, donc j'invite tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes à nous rejoindre à Oasis au Cayes pour qu'on change la donne. On change la donne.
Donc, ce serait ton message pour les enfants de la
Haïti. Invite les gens à venir nous accompagner dans cette aventure pour redonner l'espoir à ceux qui sont restés là-bas.
OK. Dani?
Mais pour moi, Haïti n'est pas seulement ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Comme Pétuel a dit, je pense d'abord et avant tout pour la jeunesse, la belle jeunesse haïtienne qui est ici au Canada, je leur dirais, il faut prendre le temps de venir. Nous vous invitons, on les invite, ils peuvent venir, peuvent prendre contact avec nous. Je pense que ça fait une grande différence. On a eu la chance dans les dernières années d'avoir plus d'une centaine de visiteurs venant d'un peu partout aux États-Unis, au Canada, même dans d'autres continents. Mais je vois quand même une certaine hésitation, prudence, peut-être même une peur, je dirais, des Haïtiens d'origine.
Ils sont beaucoup. Méfiance.
Bien sûr, parce qu'avec toutes les choses qu'ils ont entendues, c'est normal, parce que c'est leur pays d'attache, leur racine, et quand on voit tous les drames qui se sont passés, qui se passent encore aujourd'hui, c'est très difficile à gérer, même émotionnellement. Mais je le vois, quand les gens viennent, ça fait toute la différence. Et moi, je pense que, bien sûr, on peut donner, bien sûr, on peut parrainer un enfant, on peut faire ces choses-là, ça va nous aider beaucoup. Mais je pense par-dessus tout, si vous pouviez venir sur place, contacter, avoir des personnes de confiance avec qui vous pouvez venir au pays en Haïti, venir visiter, rencontrer les enfants vous-même, encourager, rencontrer le staff. Je pense que ça va les changer à tout jamais. Je sais que la situation, elle est extrêmement complexe, difficile, frustrante pour le peuple haïtien, mais moi, personnellement, j'ai espoir. J'ai espoir que le pays va connaître des progrès, va s'améliorer, non sans difficulté. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, mais je pense en général, ça va aller vers le haut. Et nous avons absolument besoin des membres de la diaspora de venir, de s'impliquer eux-mêmes. C'est bien que des Blancs, que des Canadiens, que des Américains soient sur place, mais je pense à long terme, d'avoir des gens qui ont les mêmes racines, même culture ensemble, puissent s'impliquer, s'intégrer. Pour moi, ce serait quelque chose de vraiment, vraiment spécial.
Merci. Justement, pour appuyer ce que tu dis, je sais qu'il y a près un tiers de la population d'Haïti qui sont des enfants, d'après ce que j'avais étudié dans les notes que j'avais, en fait, dans ma recherche. Oui. Même un peu plus, je pense que c'est vraiment un pays où la relève est présente, mais qui sont ceux qui les influencent? Et c'est ça, je pense, que nous devons, avec ton message, votre discours que j'entends, qui vient vraiment me toucher. Parce qu'il y a possibilité, il y a l'opportunité de pouvoir faire une différence dans les prochaines années, prochains siècles. Puis il va falloir qu'on commence quelque part.
Bien, j'ai commencé à voir des artistes, des athlètes d'origine haïtienne qui commencent à venir, qui commencent à s'impliquer. Et j'ai vu certaines personnalités québécoises, d'ailleurs, qui le font un peu en silence, sans faire trop de bruit. Et ça fait une énorme différence. Parce que je pense que quand les jeunes qui sont en Haïti voient quelqu'un avoir du succès, ça leur donne beaucoup de confiance. Et je pense que c'était la même chose pour le peuple québécois, la façon qu'il s'est émancipé, comment il a grandi, et les choses que nous accomplissons aujourd'hui, ça s'est passé premièrement par des modèles qui ont fait une différence, qui ont su conquérir le monde et qui ont su redonner aussi à leur endroit d'origine, pas besoin de mentionner de nom, mais ça donne une confiance plus qu'à des individus, ça donne une confiance nationale. Et je pense de plus en plus qu'on va voir des grandes personnalités haïtiennes retourner, s'impliquer en Haïti. Je pense que le potentiel d'Haïti, pour moi, est énorme. Les gens là-bas sont extrêmement résilients, extrêmement intelligents, imaginatifs. Et pour moi, une fois que la confiance, une fois que la vision de l'avenir sera bien captée, de grandes choses peuvent être accomplies.
Wow! Écoutez, messieurs, je pense qu'on pourrait passer la journée ensemble. Je suis émerveillée par ce que vous faites en ce moment, vraiment inspirée, moi-même défiée de pouvoir m'investir davantage dans mon propre pays, dans le pays de mes parents. Et je crois que c'est pas la dernière fois qu'on va se rencontrer. Toutefois, avant de terminer, j'aimerais vous demander, vous en avez souligné un peu dans les conversations, mais de quelle façon nous pouvons aider ou collaborer, de quelle manière on peut investir en ce moment? Je sais pas, dites-moi.
Ben écoutez, c'est toujours la même chose. Pour nous, nous avons mis en place une belle équipe, un très bon système pour développer les enfants. C'est l'aspect économique, financier qui nous aide beaucoup. Okay. Pour un enfant à l'école, leur donner leurs deux repas par jour, leur donner une éducation de qualité, leur uniforme, leurs souliers, etc., c'est pas énorme. C'est environ 1 $, 1 $50 par jour. Donc, une personne décide de mettre ça de côté, peut faire une grande différence. Donc, en visitant notre site, on peut donner un montant annuel ou à chaque mois. Donc, ça aide beaucoup. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand montant, peu importe ce que les gens peuvent donner. Mais comme on a mentionné, on veut que les gens considèrent venir nous visiter.
OK. Donc, c'est pas juste de donner, de venir, c'est encore mieux.
Nous contacter. Oui. Je dis ça parce que beaucoup de personnes sont venues et nous ont enrichi notre vision. Le microcrédit qu'on parlait tantôt, ce n'est pas nous qui avons rêvé, pensé ça au début. Vous répétez sans cesse, j'ai en admiration des choses que vous faites. On a fait très peu. On a fait le premier pas, mais beaucoup de gens sont venus. Et depuis ce temps-là, beaucoup de personnes apportent de l'eau au moulin, comme on dit. Ce sont un groupe de personnes qui sont venues avec l'idée du microcrédit et qui ont levé de l'argent, des sommes d'argent pour nous les transmettre. Des gens qui sont axés plus vers l'agriculture ou l'élevage ou le développement durable sont venus et sont en train d'enrichir aussi notre façon de faire les choses. Donc, je pense que c'est ça qui fait une grande différence. Chaque personne qui vient, chaque personne qui vient avec leur bagage, avec leur expérience, contribue à l'enrichissement. Moi, je dirais ceci. C'est certain, ou même des personnes qui ne sont peut-être pas venues en personne, mais qui nous ont contactés et qui bâtissent petit à petit une communauté Oasis, oui. Je dirais.
Ouais. OK, moi, je vais aimer ça faire partie de cette communauté, c'est certain.
C'est bien.
D'accord. Alors, oui, merci beaucoup.
Pour ajouter, oui. C'est que la pandémie nous a causé beaucoup de tort par la présence des gens, parce que les enfants aiment ça quand les gens viennent les visiter, passer du temps avec eux, jouer avec eux, apporter des jouets pour eux. Ce n'est pas seulement de donner de l'argent, mais leur présence aussi, la présence des gens. Donc, ça a fait une grande différence pour les enfants.
Merci énormément. J'ai beaucoup appris. J'ai envie d'en apprendre plus. J'aurais envie de continuer à vous poser plus de questions. Je pense que c'est le temps qui m'arrête parce que j'imagine qu'on ne peut pas faire une émission de une heure en ligne. Je veux vraiment vous remercier pour votre temps, votre présence, ce que vous faites en ce moment, oui, et tous ceux qui collaborent en ce moment avec vous et ceux qui sont à venir. Je suis épatée.
Nous vous attendons, Edna. Déguster un bon repas.
Oui, oui, absolument.
Jouer avec les enfants, absolument. Puis prier pour le pays. Des élections s'en viennent, très important. Et on prie que ça puisse apporter un peu plus de stabilité au pays aussi.
D'accord. Merci.
Merci, Edna, pour l'invitation.
Alors, merci. Et puis... Donc, on va terminer ici, mais je sais que ce ne sera pas la dernière fois. Certainement, j'aimerais vous inviter à nouveau pour justement aller un peu plus loin, en connaître plus sur les enfants qui sont présents dans l'orphelinat, comment est-ce qu'ils vivent leur jour, qu'est-ce qui se passe après, quand ils arrivent, est-ce qu'il y a une date, un âge limite, etc. Vous voyez comment je suis emballée, hein? Donc, merci énormément pour aujourd'hui. Alors, sur ce, j'aimerais vous remercier à vous, chers auditeurs, qui avez pris le temps de nous écouter, de pouvoir, je ne sais pas si vous avez été autant inspirés que moi, je l'espère. Donc, espérons que vous allez pouvoir aussi contribuer à cette communauté de Oasis. Et avant de terminer, j'aimerais prendre le temps de remercier de précieux collaborateurs et qui ont investi, qui ont permis que justement cette rencontre puisse avoir lieu. La première personne, c'est Sandra Best Décor. Cette personne m'a aidé avec toute la gestion du décor et j'aimerais la remercier. Elle fait ressortir ce qu'il y a de meilleur chez vous et en vous. Et en deuxième lieu, tvgo.ca. Donc, ils sont là pour vous aider de la promotion à la captation, à la diffusion. Merci énormément. Et c'était Edna Rencontre. Et je vous dis à la prochaine. Merci.